Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Frères et sœurs, est-ce que vous aimez l'histoire? L'histoire de votre famille? L'histoire de vos familles? L'histoire de votre pays? L'histoire de votre culture? Votre histoire personnelle? C'est important d'apprendre aux enfants, de transmettre aux enfants l'histoire dans laquelle ils s'insèrent. Ils s'enracinent. Et c'est si important de raconter aux enfants l'histoire sainte. Car au milieu de nos histoires humaines, de ce tissu extraordinaire de relations qui nous concernent aujourd'hui, qui concernaient nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, etc., etc., ce tissu culturel, il y a une autre histoire qui ne vient pas éliminer ces histoires humaines, mais qui vient transcender. Il faut remonter plus loin que grand-père et grand-mère. Il faut remonter, comme dit Jésus, au commencement. C'est-à-dire dans le dessein de Dieu, dans l'intention de Dieu, dans la volonté de Dieu. D'où viens-tu? Où vas-tu? Qui es-tu? Et qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu te lèves le matin? Quel est le sens de ta vie? Quel est le dessein de Dieu sur toi? Frères et sœurs, c'est si désespérant de ne pas savoir d'où on vient, où on va, pour qui nous vivons cette journée d'aujourd'hui, quel en est le sens, la finalité profonde? Parce que si on ne sait pas ces choses, eh bien on sera manipulable à l'excès. On avalera toutes les idéologies qui traînent, toutes les propagandes qui traînent, parce qu'on ne saura pas, on ne sera pas enraciné. Toutes les idéologies et les propagandes qui traînent veulent nous déraciner. Alors je nous pose la question, quelles sont nos racines? Si nous en avons encore, où sont-elles? Si nous sommes un arbre planté près d'un ruisseau, eh bien, est-ce que les racines vont bien boire à la source de l'eau? Quelle est cette eau? Quelles sont tes racines? Alors, encore une fois, il y a toutes les racines d'un point de vue humain, historique, génétique, familial, fait de plein de choses. Tout cet héritage familial, culturel, tout notre patrimoine. Et il y a notre histoire sainte, qu'il nous faut absolument nous réapproprier parce que c'est notre histoire. Ce n'est pas une gentille histoire qu'on raconte aux enfants pour qu'ils n'aient pas peur le soir avant de dormir. C'est l'histoire de Dieu avec nous. C'est l'histoire de l'Alliance. D'un Dieu fou amoureux de nous, qui n'a pas supporté que nos premiers parents aient chuté. Alors voilà qu'aujourd'hui je vais vous parler de ce qu'on appelle la révélation divine. La révélation de Dieu. Dieu se révèle. Extraordinaire. Nous avons vu dans les catéchèses précédentes ce que nous pouvions dire de Dieu naturellement, avec certitude, sans erreur, sans se tromper. Dieu est esprit, Dieu est unique. Il n'y a pas de multiplicité en Dieu, non. Ça déjà, humainement, philosophiquement, on peut le dire. sans se tromper. Il est l'un, il est source du multiple. Il est simple. Il est bon. On peut dire plein de choses sur Dieu qui sont vraies. Et comme je vous le disais, et comme tient et enseigne notre Église, notre mère, l'Église catholique, cette connaissance naturelle de Dieu est la base humaine, le fondement humain sur lequel la révélation divine peut se greffer. C'est-à-dire que si on est capable naturellement de connaître Dieu, alors ça va, Dieu peut se révéler, sinon il sera éternellement étranger. Or, Dieu n'est pas éternellement étranger. Il reste le tout autre, oui. L'inaccessible, lumière inaccessible, oui. Et pourtant, il a plu à Dieu de se révéler. Il a plu à Dieu dans sa sagesse et sa bonté de se révéler et de connaître et de faire connaître le mystère de sa volonté grâce auquel les hommes, par le Christ, le Verbe fait chair, accèdent dans l'Esprit Saint auprès du Père et sont rendus participants de la nature divine. Il a plu à Dieu de se faire connaître. Parce qu'il faut le dire, après le péché, on est mal, comme on dit. Pour connaître Dieu, c'est quand même très laborieux. C'est tellement laborieux qu'on tombe si facilement dans l'idolâtrie, dans le polythéisme, dans plein de choses. Alors il faut cet amour incommensurable de la part du Seigneur pour venir jusqu'à nous, pour descendre jusqu'à nous, pour se révéler. J'aime bien prendre cet exemple de quelqu'un que vous côtoyez de l'extérieur. Vous observez quelqu'un de l'extérieur, d'accord? Comme il y a un film de Hitchcock, je crois, je ne sais plus le nom. Il regarde de sa fenêtre en face, vous voyez, il y a quelqu'un, il y a des choses qui se passent en face, dans l'appartement d'en face, puis il est avec ses jumelles, là, il regarde un petit peu. Il a une certaine vision, selon son observation, de ce qui se passe, de qui sont ces gens. Et ce sont des choses qui ne sont pas forcément fausses. C'est même vrai, madame est blonde, monsieur est brun, et il mesure 1m80, c'est pas faux. Ils se disputent un peu de temps en temps, c'est pas faux. Mais voilà que un jour, au bas de l'immeuble, ou plutôt à votre porte, sonne la sonnette, et c'est monsieur, madame, que vous observez avec vos jumelles, qui sont là. Et qui viennent vous voir et qui vous disent « On a quelque chose à vous dire. On va vous dire ce qui se passe vraiment dans notre vie. On va vous dire qui on est, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. » Et là, d'un coup, vous allez découvrir que ce que vous connaissiez d'eux, encore une fois, si ce n'était pas faux, c'était très limité. Pourquoi? Parce que vous n'aviez pas accès à ce que monsieur et madame voulaient vous dire. Et là, vous apprenez des choses que vous ne pouviez pas savoir, impossible de savoir sans qu'ils ne vous le disent. Qu'ils ont 3 enfants, vous ne pouvez pas savoir qu'ils avaient 3 enfants, qu'il y en avait un qui était porteur de handicap, qu'ils avaient telle difficulté dans leur vie, ou telle joie, qu'ils aimaient le foot, bon, qu'ils aimaient aller au théâtre, vous ne pouvez pas savoir. Que leurs parents venaient de Hongrie pour lui, elle d'Autriche. Hein, vous ne saviez pas tout ça. Vous ne saviez pas qu'ils étaient croyants, etc., etc. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je vous prends cet exemple pour vous montrer que il a plu à Dieu de se révéler, de frapper à la porte de notre cœur, comme il dit dans Apocalypse 3:20. Voici que je me tiens à la porte et que je frappe, dit le Seigneur, celui qui entend ma voix et qui m'ouvre, ben j'entrerai. Et puis, je vais prendre mon repas chez lui. Lui avec moi, moi avec lui. Autrement dit, Dieu ne cesse de frapper à la porte de notre cœur. Heureux ceux et celles qui ouvrent non seulement qui entendent, parce qu'il y a plein de gens qui entendent, mais il y a peu qui ouvrent. Heureux ce sont ceux et celles qui entendent la parole de Dieu et qui ouvrent la porte de leur cœur. Ô Seigneur, qui disent, viens, entre chez moi, dis-moi, qui es-tu? Que veux-tu? Qu'aimes-tu? Quelles sont tes joies? Quelles sont tes peines? Qu'est-ce que tu vis au-dedans de toi? Parce qu'encore une fois, dire de quelqu'un qu'il mesure 1m80, qu'il pèse 50 kilos, qu'il aime, qu'il a tel tempérament, qu'il a deux, trois choses, qu'il a un compte bancaire avec tant d'argent là-dessus, des choses comme ça. Bon, c'est pas fou, encore une fois, mais qu'est-ce qu'il vit? Que vit cette personne? Que vit Dieu au-dedans de lui? Qui est-il? Impossible de le savoir si le Seigneur ne nous le révèle pas. Voilà la grandeur de ce qu'on appelle la révélation divine. C'est le Seigneur lui-même qui se révèle. Il a plu à Dieu dans sa sagesse et sa bonté de se révéler. Alors, le dessein divin de la révélation se réalise à la fois par des actions et des paroles, intimement liées entre elles et s'éclairant mutuellement. Action, l'agir de Dieu, des paroles. Il comporte une pédagogie divine particulière, comme on dit, le catéchisme, paragraphe 53. Pour ceux et celles qui ont le catéchisme pas loin, parce que je sais que certains d'entre vous, vous avez le CEC pas loin de vous. Donc quand je dis 53, vous allez voir. Voilà. Allez voir, vous pouvez aller voir. 53. Le dessein divin de la révélation se réalise à la fois par des actions et par des paroles intimement liées entre elles et s'éclairant mutuellement. Il comporte une pédagogie divine particulière. Dieu se communique graduellement à l'homme. Il le prépare par étapes à accueillir la révélation surnaturelle qu'il fait de lui-même et qui va culminer dans la personne et la mission du Verbe incarné, Jésus-Christ. Saint Irénée de Lyon parle à maintes reprises de cette pédagogie divine sous l'image de l'accoutumance mutuelle entre Dieu et l'homme. Il nous dit, Saint Irénée de Lyon, qui sera un jour docteur de l'Église, sans doute. Le Verbe de Dieu a habité dans l'homme et s'est fait fils de l'homme pour accoutumer l'homme à saisir Dieu et accoutumer Dieu à habiter dans l'homme, selon le bon plaisir du Père. Voilà que Dieu, tout en restant Dieu, va venir nous toucher, nous rejoindre, nous rencontrer. Nous qui voulons finalement si peu rencontrer Dieu, parce qu'on est pris par plein de choses, hein, on est très très occupé sur Terre, très occupé. Tellement de choses passionnantes à vivre, s'occuper du bon Dieu et de savoir qui il est, qu'est-ce qu'il fait, tout ça, c'est... Hein. En Dieu, c'est l'inverse, il va bien en lui-même, mais il a plu, il s'intéresse à nous, il veut nous rencontrer. Alors, bien sûr, je vous ai déjà parlé de la création, cette œuvre merveilleuse de la création à travers laquelle le Seigneur nous dit « je t'aime » sans cesse, à travers le soleil, la pluie, les nuages aujourd'hui, oui, il pluvine aujourd'hui ici à la gare de studio, et bien à travers les petites gouttes de pluie, Dieu nous dit « je t'aime », à travers le vent, la neige. Nous pouvons reprendre le psaume de la création, et l'Écriture, le cantique des trois enfants, à travers sa création merveilleuse. Et attention, dans la création, il y a nos frères et sœurs. Hein. Ce n'est pas que le monde végétal, minéral, animal. Hein. C'est les hommes aussi, les êtres humains. Dieu nous dit « je t'aime » à travers nos frères et sœurs. À travers la création actuelle de tout ce qui est. Mais aussi, dans l'histoire, c'est notre histoire sainte, à travers des événements, des gestes, des paroles, des personnes, des personnages, à travers lesquels le Seigneur se révèle progressivement, étape par étape. Le CEC nous parle de l'alliance avec Noé, bien sûr, qui se trouve dans nos Bibles. Une fois l'unité du genre humain morcelée par le péché, Dieu cherche tout d'abord à sauver l'humanité en passant par chacune de ses parties. L'alliance avec Noé d'après le déluge exprime le principe de l'économie divine envers les nations, c'est-à-dire envers les hommes regroupés, d'après leur pays, chacun selon sa langue et selon son clan. Je suis pas sûr que Dieu aime l'uniformité. Cet ordre, à la fois cosmique, social et religieux, de la pluralité des nations, confié par la providence divine à la garde des anges, est destiné à limiter l'orgueil d'une humanité déchue qui, unanime dans sa perversité, voudrait faire par elle-même son unité à la manière de Babel. Rappelez-vous, dans le chapitre 9, 10 du livre de la Genèse, et 11 aussi, la tour de Babel. C'est l'homme qui veut rejoindre la divinité par lui-même, avec orgueil et construction. Est-ce qu'on n'est pas dans un temps comme ça, où on veut construire une humanité et vivre sur terre en ne faisant plus du tout référence à Dieu? On se prend pour des dieux. Parce qu'il y a cette parole démoniaque qui dit « Ah, Dieu sait !» Vous serez comme des dieux. Alors si on peut être comme des dieux, ça nous intéresse. Retrouver l'immortalité sans Dieu, ce qui est impossible. L'orgueil se trompe complètement. C'est pourquoi je suis assez tranquille personnellement sur le transhumanisme. Comme l'était Jean-Paul II sur le communisme. Ça ne peut pas marcher. Alors, à cause du péché, le polythéisme ainsi que l'idolâtrie de la nation et de son chef menacent sans cesse d'une perversion païenne cette économie provisoire. Polythéisme, idolâtrie. Caricature de la pluralité des personnes en Dieu, bien sûr. Caricature de la Trinité. Dieu est un. Non seulement unique, mais un. Unique, c'est-à-dire qu'en dehors de Dieu, il n'y a juste rien. Il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. Dieu est unique. Mais Dieu est un. Il y a un mystère d'unité en Dieu, et non pas simplement d'unicité. Dieu est un. Le Père est Dieu. Le Fils est Dieu. L'Esprit Saint est Dieu. Ça fait combien de dieux, les enfants? Ça fait un. Est-ce que le Père est tout Dieu, 100% Dieu? Oui. Le Fils, 100% Dieu, oui. L'Esprit Saint, 100% Dieu, oui. Voilà le mystère du un Dieu en trois personnes, caricaturé par le polythéisme. On va aller chercher une divinité pour la fécondité, une pour avoir la pluie, l'autre pour avoir moins de pluie, l'autre pour avoir... Et puis, si ça marche pas avec les divinités, on va aller voir les gens, carrément. Madame Irma est... Vous ne pouvez pas me dire si je vais rencontrer Juliette, là? Quand je vais rencontrer Juliette, si je la rencontre? Combien ça coûte? 50 euros, d'accord. Le polythéisme, l'idolâtrie, sont des postures religieuses qui viennent de la peur. On court les dieux, les divinités, pour se rassurer. J'ai eu peur, j'ai entendu ton pas dans le jardin, et j'ai eu peur. Et ça va engendrer une relation à Dieu complètement faussée. L'idolâtrie, bien sûr, non seulement prendre de la matière pour Dieu, des matières, bois, plâtre, bon, il n'y avait pas de plâtre à l'époque, mais vous voyez ce que je veux dire, bronze, etc. Idole faite de mains humaines. Eh bien, qu'ils deviennent comme elles, tous ceux qui les font, dit le psaume. Hein? C'est-à-dire, c'est juste rien. L'idolâtrie, se mettre sa confiance, son adoration, remettre sa personne, sa vie, entre les mains d'une idole, de quelque chose qui n'est rien, c'est une grave erreur. Parce que c'est rien une idole. Ça montre une grande détresse aussi. Ça montre deux choses, qu'on a besoin de se remettre à plus grand que soi. Une idole, c'est quelque chose qu'on considère comme plus grand que soi. Or, Dieu seul est plus grand que nous. Et ô combien nous avons raison de s'en remettre à lui, de l'adorer en esprit et en vérité. Lui, le Dieu, un. Marie-Madeleine a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée, Marthe. Alors, l'alliance avec Noé. Vous voyez, on se balade. On passe de Noé à Marthe et Marie à Béthanie. C'est quand même bien, hein? L'alliance avec Noé est en vigueur tant que dure le temps des nations, jusqu'à la proclamation universelle de l'Évangile. La Bible vénère quelques grandes figures des nations, telles que Abel le Juste, le roi-prêtre Melchisédek, figure du Christ, ou les justes Noé, Daniel et Job, Ézéchiel 14:14. Ainsi, l'Écriture exprime quelle hauteur de sainteté peuvent atteindre ceux qui vivent selon l'alliance de Noé. L'arc-en-ciel, dans l'attente que le Christ rassemble dans l'unité tous les enfants de Dieu dispersés. Il y a donc avant Genèse 12, avant Abraham, ce qu'on appelle l'économie de la loi naturelle. Je vous ai parlé dans la catéchèse précédente de la loi naturelle et de la conscience. Eh bien, ça court toujours. C'est-à-dire que tout homme, toute femme, encore une fois, est capax dei. Capable d'entendre la parole de Dieu et de la mettre en pratique. Très difficilement, certes, mais il y a quand même des justes. L'Écriture nous montre des justes dociles à la volonté de Dieu, non seulement dociles en écoutant, mais en faisant la volonté de Dieu. Noé a construit une arche, et heureusement qu'il l'a fait. Il y a donc les justes de l'Ancien Testament avant Abraham, qui témoigne que Dieu parle au cœur de l'homme et que l'homme est capax dei sur la terre. Voilà la première chose que vous devez raconter aux enfants, à vos enfants. Mon enfant, ton cœur est capable de vivre avec Dieu, de vivre une alliance d'amour avec Dieu. C'est la plus grande chose que vous pouvez dire à vos enfants. Et au cœur de difficultés qu'ils pourraient traverser, familiales ou à l'école, que sais-je, dites à vos enfants qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils ont Dieu dans leur petit cœur, surtout s'ils sont baptisés. Et que ce Dieu est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, même les jours fériés, quel que soit leur état, quelle que soit leur humeur, Dieu est toujours accessible. Pourquoi ? Parce qu'il s'est penché sur nous. Ça commence avec les justes de l'Ancien Testament, ça s'accentue avec Abraham. Il y a une étape très importante avec Genèse 12. Pour rassembler l'humanité dispersée, Dieu élit Abraham en l'appelant hors de son pays, de sa parenté et de sa maison, pour faire de lui Abraham, c'est-à-dire le père d'une multitude de nations. En toi seront bénies toutes les nations de la terre. Le peuple issu d'Abraham sera le dépositaire de la promesse faite au patriarche, le peuple de l'élection, appelé à préparer le rassemblement un jour de tous les enfants de Dieu dans l'unité de l'Église. Il sera la racine sur laquelle seront greffés les païens devenus croyants. Les patriarches et les prophètes et d'autres personnages de l'Ancien Testament ont été et seront toujours vénérés comme saints dans toutes les traditions liturgiques de l'Église. Bien sûr, saint Abraham, priez pour nous, Isaac, Jacob, Moïse. Extraordinaire. Dans le temps, dans la période, dans l'époque, dans le contexte culturel-religieux qui était le leur, ils ont su accueillir la parole de Dieu et y obéir, et faire des choses folles. Je ne vais pas revenir sur Abraham, nous avons déjà parlé beaucoup, beaucoup d'autres moments, mais c'est merveilleux, on pourrait y revenir sans cesse, c'est très, très enrichissant pour notre vie personnelle. La foi d'Abraham. Avec Abraham, c'est notre père dans la foi. La Vierge Marie sera notre mère dans la foi. Et bien sûr, c'est la foi de Marie qui porte celle d'Abraham. Mais il y a quelque chose de nouveau. Il est père. C'est-à-dire qu'il engendre. C'est-à-dire que on va recevoir de la foi d'Abraham, on va se caler sur la foi d'Abraham, on va recevoir de la foi d'Abraham pour vivre de la foi d'Abraham. On est immédiatement dans la transmission, la tradition, transmission. Transmission de quoi ? Tradition de quoi ? Eh bien, transmission de ce Dieu qui se révèle et qui commence à dire qui il est. On commence progressivement à entrer dans l'intimité de Dieu par la foi, par l'accueil de sa parole, par l'obéissance à sa parole. Alors voilà qu'il y a tout l'histoire du peuple d'Israël qui commence à se constituer, qui est en Égypte, dans un état de servitude, et qui va trouver en la personne de Moïse un libérateur et un législateur. Préfigurant bien sûr le Rédempteur et celui qui va nous donner la loi nouvelle de l'Esprit-Saint. Après les patriarches, nous dit le CEC, paragraphe 62, Dieu forma Israël comme son peuple, en le sauvant de l'esclavage de l'Égypte. Il conclut avec lui l'alliance du Sinaï, et lui donna par Moïse sa loi, pour qu'il le reconnaisse et le serve comme le seul Dieu vivant et vrai. Père provident et juste juge, et qu'il l'attende le Sauveur promis. Il y aura toutes les promesses, car si Dieu se révèle, Dieu promet aussi. Israël est le peuple sacerdotal de Dieu, celui qui porte le nom du Seigneur. C'est le peuple de ceux à qui Dieu a parlé en premier. Le peuple des frères aînés dans la foi d'Abraham. Par les prophètes, Dieu forme son peuple dans l'espérance du salut, dans l'attente d'une alliance nouvelle et éternelle destinée à tous les hommes, et qui sera inscrite dans leur cœur. Les prophètes annoncent une rédemption radicale du peuple de Dieu, la purification de toutes ses infidélités, un salut qui inclura toutes les nations. Ce seront surtout les pauvres et les humbles du Seigneur qui porteront cette espérance, les femmes saintes comme Sarah, Rebecca, Rachel, Myriam, Déborah, Anne, Judith et Esther ont conservé vivante l'espérance du salut d'Israël. La figure la plus pure en est Marie. Il y a donc environ 2000 ans, Puisque Abraham est situé vers 1800 ans avant Jésus-Christ, Moïse environ 1250 ans, si mes souvenirs sont bons. Il y aura David ensuite, vers l'an 1000. Tous, pendant tout ce temps-là, Dieu est en train d'agir, de se révéler, de se manifester, d'enraciner dans la foi de ce peuple tout à fait particulier et unique. Il n'y en a pas d'autre. Non, il n'y en a pas d'autre. C'est le peuple du Seigneur. C'est le peuple de Dieu, choisi, élu, conduit, protégé, corrigé par Dieu, parce que c'est un peuple à la nuque raide. Oh oui. Et un peuple tout à fait particulier parce qu'il est non seulement réceptacle de la révélation, gardien de la révélation, il lui est demandé de garder ce dépôt, de le transmettre fidèlement, tu diras à tes fils qui diront à leurs fils et aux fils de leurs fils. Eh oui, c'est si grand la révélation. C'est le trésor de notre vie, alors qu'il faut savoir le garder. Comment est-ce qu'on garde? En le transmettant, en le vivant et en le transmettant. On ne garde pas le dépôt de la foi comme dans un coffre, dans une banque. Non. On garde le dépôt de la foi en le vivant à fond de ce lien d'amour, de cette alliance nouvelle et éternelle avec le Seigneur. Et du coup, on transmet, on engendre, on communique. Et en le transmettant, en le communiquant, on grandit, on devient père dans la foi comme Abraham, on devient mère comme Marie. Et puis, ce peuple d'Israël, comme dit le catéchisme, est un peuple sacerdotal. Le sacerdoce qui consiste à déposer dans le cœur de Dieu tout ce qui vient de l'homme, tout homme, toute femme, et puis à recevoir de Dieu aussi tous ses bienfaits, ses bénédictions pour les répandre sur l'humanité. Il y a donc un culte, une liturgie, un sacerdoce, qui est donné par le Seigneur pour accompagner ce peuple dans sa croissance et dans sa compréhension aussi. Car ce sacerdoce est appelé à évoluer et à trouver son accomplissement dans le sacerdoce du Christ. Il y aura donc des prêtres du peuple d'Israël qui vont se convertir à Jésus et qui vont devoir basculer dans le sacerdoce nouveau. Ce sera l'accomplissement, heureusement, que la modalité sacerdotale change. On est passé des sacrifices d'animaux au sacrifice du Christ. Vous voyez le chemin gigantesque qu'il aura fallu parcourir. Les formes cultuelles seront abolies, mais l'essence du culte, tout ce qui sera vrai, tout ce qui sera selon Dieu, trouvera pleinement son accomplissement en Jésus, dans le sacerdoce du Christ, qui viendra accomplir toute la loi, les prophètes, tout, les promesses. Alors, ce peuple de Dieu, bien sûr, est un peuple qui doit trouver son accomplissement en celui dont il promet la venue, fondée sur les promesses de Dieu, car c'est un peuple tout à fait particulier, c'est un peuple messianique qui attend le Messie. Comment ça se fait qu'il attend le Messie? C'est parce que Dieu a dit, j'envoie mon Messie. Donc attendez-le, il arrive, je l'envoie. Donc Israël attend. C'est tout à fait particulier. C'est magnifique. C'est un peuple qui non seulement dans sa foi garde la parole de Dieu, en tout cas appelé à le faire, mais c'est un peuple dans lequel il y a l'espérance. Une espérance extraordinaire. Alors bien sûr, lorsqu'on parle de peuple, eh ben souvent dans la réalité, c'est quelques personnes. Ce n'est pas l'ensemble. Parce qu'il y a beaucoup de personnes dans le peuple de Dieu qui n'ont pas la foi, qui n'ont pas l'espérance, qui ne pratiquent pas, qui... Voilà. Mais néanmoins, dans l'essence du peuple, il y a toujours la foi qui est gardée comme une petite lumière et qui permet d'avancer. Et il y a toujours cette espérance messianique. Cette espérance messianique qu'on va retrouver, bien sûr, dans les pauvres, les petits, les humbles, les Anaouim, dans les saintes femmes, Élisabeth, Zacharie, la Vierge Marie, qui basculera de l'espérance à la présence réelle en elle, l'accomplissement. Elle va vivre en elle, dans son cœur et sa chair, l'accomplissement de l'espérance. C'est quand même formidable. L'espérance. Un peuple qui espère, appuyé sur la parole de Dieu qui est promesse. Et quand Dieu promet, comme il est fidèle, il accomplit ses promesses. Il y aura donc cet accomplissement des promesses de Dieu dans le Christ Jésus, après avoir à bien des reprises et de bien des manières parlé par les prophètes. Dieu, en ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par son Fils. Hébreux 1. Le Christ, le Fils de Dieu fait homme, est la parole unique, parfaite, indépassable du Père. En lui, il dit tout, et il n'y aura pas d'autre parole que celle-là. Saint Jean de la Croix, après tant d'autres, l'exprime de façon lumineuse. Dès lors qu'il nous a donné son Fils, qui est sa parole, Dieu n'a pas d'autre parole à nous donner. Il nous a tout dit à la fois, et d'un seul coup, en cette seule parole. Car ce qu'il disait par partie au prophète, il l'a dit tout entier dans son Fils, en nous donnant ce tout qu'est son Fils. Voilà pourquoi celui qui voudrait maintenant l'interroger ou désirerait une vision ou une révélation, non seulement ferait une folie, mais ferait injure à Dieu en ne jetant pas les yeux uniquement sur le Christ, sans chercher autre chose ou quelque nouveauté. Je dirai un petit mot dans une autre catéchèse sur les révélations privées. En terminant cette catéchèse d'aujourd'hui, en disant que en ces temps qui sont les derniers, Dieu a parlé par son Fils, et voilà que une des premières paroles que Jésus prononcera dans sa vie publique, les temps sont accomplis. Et c'est en Jésus que nous trouvons l'accomplissement des promesses de Dieu. Alors, voilà notre histoire sainte, qui s'accomplit, qui culmine en la personne de Jésus, en son mystère, mystère du Fils de Dieu, mystère de Rédempteur, qui vient nous sauver du péché, etc., etc. Voilà nos racines, frères et sœurs. Nous avons les racines humaines, mais nos racines sont en Dieu. Celles-là, elles sont puissantes. Elles sont capables de nous faire traverser tout, toutes les sécheresses. Parce que en Dieu, il n'y a point de ténèbres. Dieu est lumière. Amen. Alléluia.